100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Relancer l'économie, lutter contre le chômage des jeunes, en Grèce comme ailleurs, les objectifs sont les mêmes. Pas étonnant d'ailleurs que les nouveaux pays membres de l'Union européenne soient parmi les plus récalcitrants à un effacement de la dette grecque. En Bulgarie, par exemple, presque un quart des jeunes ne travaillent pas et ne suivent pas d'études. Des réformes pour que les formations soient moins déconnectées du marché du travail commencent à peine à être introduites. Reportage à Sofia, signé Damien Vodenicharov.
La léthargie de l'été s'abat sur Sofia, avec les températures qui grimpent bien au-dessus de la barre des 30 degrés. Pas de foule au pôle d'emploi donc, mais les quelques jeunes qui s'y aventurent ne se font pas d'illusions. Il faut s'armer de patience ou de sarcasme. Milan, 23 ans, n'a rien de bon à dire sur ce qu'on lui propose.
Il n'y a rien de rien. On s'inscrit ici et puis on vient y passer la journée. Je ne sais pas comment on peut faire son piston. Et en plus, les salaires sont très bas. On propose entre 150 et 220 euros par mois. Comment vivre avec ça? Le tout petit salaire minimum, quoi.
Les étudiants n'ont pas plus de chance. Kamen, qui fait des études de géographie, ne trouve aucun job à mi-temps.
Tous les employeurs exigent une expérience professionnelle. Comment en avoir quand on ne nous embauche pas? Et toutes ces annonces sur Internet sont mensongères. Ce sont des postes pour étudiants avec des journées de travail de 12 heures. C'est impossible.
Ces jeunes sont alors obligés de compter sur leurs parents. La dépendance financière, c'est du luxe, explique Angel, 20 ans, étudiant en informatique.
La plupart de mes amis sont partis travailler aux États-Unis cet été. Ils ont pris le risque parce que nous sommes encore très aidés par nos parents. On devrait être indépendant à 20 ans.
Du côté des employeurs, rien n'est facile non plus. Un grand nombre de jeunes à la recherche d'un travail n'est pas assez qualifié, explique Maya Solakova, gérante d'une agence de publicité. Récemment, deux postes administratifs étaient à pourvoir.
On a reçu 200 CV et on devait en sélectionner 12. On a pu trouver que 9 candidatures convenables pour un entretien. Une seule personne remplissait les conditions requises pour qu'on l'embauche. Tous les autres avaient triché sur leur CV, tous sont venus en retard à l'entretien. Une candidate a même appelé pour reporter l'entretien un autre jour parce que la date ne lui convenait pas.
Ce décalage entre l'offre et la demande n'est en rien nouveau. Le patronat bulgare se plaint depuis des années d'un manque total de coordination avec l'éducation. La conclusion de Natalia Georgieva, consultante auprès de l'UNICEF, est que les employeurs sont davantage intéressés par des qualités précises que par des diplômes génériques.
Trouver des solutions dans des situations difficiles, voire critiques, faire preuve d'esprit critique et de créativité, pouvoir réagir rapidement. Les entreprises cherchent des qualités qui devraient être développées dans l'esprit des jeunes. Malheureusement, notre système d'éducation ne cultive pas ce genre de qualités. Il délivre des diplômes qui n'ont pas beaucoup de valeur, tout compte fait.
Pour remédier à ce décalage considérable entre les différents cursus et les réalités du marché du travail, il faudrait repenser l'éducation à tous les niveaux, explique encore Natalia. Les formations professionnelles, par exemple, qui n'assurent pas assez de stages et d'expérience aux élèves des lycées. Un autre gros problème est la marginalisation des jeunes sans emploi qui ne suivent pas d'études.
Dans ce groupe, un jeune sur deux n'a pas passé le bac. Et malheureusement, les dernières données officielles montrent que leur nombre augmente. Il est passé de 12,5 à 12,9 en 2014.
À coup de financement européen, le gouvernement est en quête de solutions. La Bulgarie disposera d'environ 100 millions d'euros jusqu'à 2020. Ces fonds seront mis à disposition des projets de stimulation de l'emploi. De nombreuses ONG bénéficient déjà des fonds européens pour systématiser le dialogue entre étudiants et dirigeants ou encore pour organiser des formations ciblées. Les premiers résultats sont positifs. 10 000 jeunes auraient trouvé un emploi depuis l'année dernière. Reste cependant à changer les choses là où ça fait mal. L'éducation. Le compte à rebours a déjà commencé. Les économistes craignent le crash démographique. Les retraités sont plus nombreux que la population active occupée. Le taux de natalité est faible et l'immigration continue à ronger le marché du travail.
Les jeunes sont...
Et des jeunes, il est encore question avec vous, Eve Minot, bonjour.
Bonjour Frédéric.
En regardant d'un peu plus près les résultats du dernier référendum grec qui a recueilli, rappelons-le, 61,3% de non, on se rend compte que les jeunes grecs ont encore plus massivement voté contre le plan d'aide européen.
Oui, et il suffisait de jeter un coup d'œil rapide aux images diffusées depuis la capitale grecque dimanche dernier pour remarquer cette jeunesse omniprésente. Ce qui m'a amené à me poser cette question, faut-il faire une lecture générationnelle de la crise politique entre la Grèce et l'Europe? Si l'on regarde les réponses des jeunes grecs à la question européenne posée dimanche, donc le non l'emporte à 85% chez les 18-24 ans et 72% chez les 25-34 ans, selon un sondage de l'Institut Public Issue, contre 45% par exemple chez les plus de 66 ans. Ce sont donc les jeunes grecs qui ont fait basculer leur pays vers le non et l'Europe devrait en prendre note.
Oui, surtout que ce n'est pas la première fois que les jeunes se montrent plus eurosceptiques que leurs parents.
Non, retour en 2005 lors des différents référendums sur le traité établissant une constitution pour l'Europe, je le rappelle. En Espagne, pays largement favorable à l'époque, les jeunes avaient déjà beaucoup moins voté oui que leurs parents. Aux Pays-Bas, pays où le texte avait été rejeté, les jeunes avaient eux aussi été ceux qui avaient fait pencher la balance du vote du côté du non. Une équation par contre qui ne se vérifie pas tout à fait en France où les jeunes n'étaient pas les plus eurosceptiques. Tandis par contre qu'en Grande-Bretagne, ce sont régulièrement au contraire les plus jeunes qui se déclarent euro-optimistes selon plusieurs sondages YouGov récents.
Et alors, que faut-il comprendre ?
Ah, difficile de généraliser l'interprétation d'un non dans différents pays sur différents textes. D'autant que pour bien faire, il faudrait également analyser l'impact de l'abstention qui, je le rappelle, est particulièrement marqué chez les jeunes. Reste que l'on constate aujourd'hui un désenchantement européen de la jeunesse. Selon Jean-Paul Agon, chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, 61% des jeunes considéraient que l'Europe était source d'espoir en 2003. Seulement la moitié le pense encore 10 ans plus tard.
Peu d'espoir donc, mais de la confiance, Eve.
Oui, car paradoxalement, les 18-24 ans étaient encore 48% à déclarer avoir plutôt confiance en l'Union européenne dans le dernier Eurobaromètre, beaucoup plus que leurs parents, qui n'étaient que 1 sur 3 à continuer à placer leur confiance dans ces institutions. Les plus jeunes, les jeunes européens respectent donc l'UE, mais justement peut-être en attendent un peu plus.
Et peut-on parler de solidarité entre les jeunes européens ?
Oui, plus que jamais, et c'est cela qui est intéressant. Les jeunes espagnols ont félicité les jeunes grecs dimanche, et de partout, les messages de soutien affluaient sur Twitter et Facebook à l'image de la collecte créée par ce jeune anglais dont nous avons parlé dans Accent d'Europe. En fait, ce n'est pas l'Europe que ces jeunes européens rejettent. Ils savent qu'ils ont tout à y gagner, surtout en mobilité, la valeur cruciale à leurs yeux. Ce qu'ils semblent rejeter, c'est son modèle de gouvernance économique, ses dirigeants qu'ils n'ont pas choisis et qui aujourd'hui les étranglent et veulent à tout prix leur faire payer les dettes de leurs parents.
Alors que comprendre, les jeunes veulent plus ou moins d'Europe?
Ils veulent en tout cas une autre Europe, Frédéric. Pour résumer, on pourrait dire que l'Europe de leurs grands-parents a permis de pérenniser la paix sur le continent. Celle de leurs parents a apporté une croissance économique qui a vu l'émergence d'un modèle social européen inégalé dans le monde. Mais sa gestion catastrophique de la crise des 10 dernières années est en train de mettre à genoux une génération qui questionne donc forcément sa légitimité démocratique. Il faudra peut-être rappeler quand même que le premier outil de la démocratie, c'est le vote. Et il y a un an, aux élections européennes, 76% des 18-24 ans ne se sont pas déplacés sur le continent pour aller voter. 71% chez les 25-34. C'est ce que l'on appelle un paradoxe.
Merci Eve Minot, on vous retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Flotte comme un petit art de Maidan, ou plutôt du mouvement du parc Gezi, mais cela se passe à Lviv, la capitale de l'ouest de l'Ukraine. Des groupes de militants et d'étudiants occupent depuis des semaines un parc pour empêcher sa destruction. Un vent de rébellion qui est aussi politique à Lviv, Sébastien Gobert.
Entre le parc Saint-Youri et le chantier de reconstruction de la voirie, les ouvriers ont creusé un trou pour préparer des travaux de canalisation. Ils ne sont pas allés plus loin. Un jeune homme campe désormais dans ce trou, nuit et jour. Il est membre du groupe Sauvons le Square, un collectif d'habitants qui conteste la destruction prévue des arbres centenaires du parc. Ils accusent l'église gréco-catholique voisine et la municipalité d'avoir détourné un projet de construction de monument historique pour entreprendre une rénovation majeure de la place et de la voirie. L'initiative se ferait au mépris des consultations avec les habitants et empiéterait sur les plates-bandes de l'université voisine. Depuis la fin mai, le parc s'est transformé en campement permanent de jeunes militants civiques. Entre concerts et débats, ils observent avec anxiété les mouvements des bulldozers aux alentours. À chaque fois qu'une machine s'approche trop près de l'un des arbres, c'est le branle-bas de combat dans le parc et sur les réseaux sociaux. Le maire Andri Sadovi, qui cherche à se faire réélire lors des prochaines élections, n'ose pas lever le petit doigt. L'affaire est d'autant plus intéressante qu'elle oppose les intérêts politico-financiers de l'Église et de l'État d'un côté, au dynamisme réformateur de l'université de l'autre côté. Les jeunes militants s'indignent qu'une initiative ouvertement bénéfique à l'Église soit financée par le budget de la municipalité. Les partisans du projet et fidèles de la paroisse accusent, eux, les contestataires d'être payés, voire d'être des agents de Moscou. Les expressions sont colorées, les débats animés. Mais en attendant qu'une sortie de crise soit trouvée entre les pelleteuses et les bulldozers, c'est une ambiance de fête et de musique qui règne sous les arbres en fleurs du parc Saint-Youri.
Et on fait un saut générationnel, on quitte les moins de 30 ans pour notre reportage qui nous entraîne dans les maisons de retraite en Russie. 5 pensionnaires par chambre, peu d'activités et des équipements sanitaires qui font défaut. Le tableau n'est pas très réjouissant dans les établissements publics. Heureusement, il y a les collectifs de bénévoles qui prennent en main l'animation et même les travaux. C'est le reportage d'Étienne Bouche dans l'oblast de Toula, à 230 km de Moscou.
À Bogorodytsk, sur le parking d'un magasin de bricolage, Daria étudie une liste de commandes pendant qu'un ouvrier lui découpe des pièces de métal. La toute jeune femme pourrait passer pour une étudiante avec son jean ajusté, mais elle maîtrise la situation. Daria est architecte de formation. C'est elle qui est chargée d'acheminer les matériaux à la maison de retraite de Begichevski, à une quinzaine de kilomètres.
C'est pour souder la balustrade qui servira au fauteuil roulant. On va créer une rampe d'accès à l'entrée. D'autres bénévoles vont nous rejoindre ce week-end, ils vont retaper le perron et auront besoin de ces matériaux. Le travail est assez physique, beaucoup ne sont pas habitués car on travaille presque toutes dans les bureaux. Ici on fait du travail manuel toute la journée, perché sur une échelle.
Daria habite à Toula, la grande ville de la région. Ici, elle est un peu chef de chantier. Comme une dizaine de bénévoles, elle a répondu à l'appel d'une association d'aide aux personnes âgées, Starost Vradost, la vieillesse dans la joie, une association qui organise des missions dans des maisons de retraite. Celle-ci dure 2 semaines. Anna en est l'organisatrice.
Il n'y a quasiment aucune autre organisation en Russie qui s'occupe des personnes âgées. La situation est critique, on ferme des établissements. L'aide qu'on peut apporter est utile, mais mettre sur pied une mission comme celle-ci n'a rien d'évident.
Dans l'aile gauche de la maison, une dizaine de filles est à l'œuvre, une équipe exclusivement féminine. Daria, sa sœur Maria et les autres enduisent les murs et les plafonds. L'objectif, c'est d'aménager 2 pièces. L'une sera une buanderie, l'autre une nouvelle chambre pour les pensionnaires. Le bruit des travaux réveille un lieu que l'on devine bien silencieux le reste de l'année, même si les bénévoles s'efforcent de garder un lien avec les pensionnaires.
Il nous arrive de venir un samedi, on emporte avec nous des couches, des sucreries pour les pensionnaires, ou bien on trouve un accordéoniste et on organise un petit concert.
Pour s'occuper des 50 retraités, la maison emploie une trentaine de personnes qui travaillent par roulement, des infirmières, des cuisiniers, du personnel d'entretien. Les pensionnaires vivent à 5 par chambre, tous allongés sur leur lit. En attendant que la nouvelle chambre soit prête, quelques-uns sont installés dans le couloir, comme cette ancienne ouvrière du textile aux jambes paralysées. Elle a 67 ans, on lui en donnerait 15 de plus, même si elle est capable de réciter du Pushkin sans buter. Sur les murs de la chambre d'Anatolie, les bénévoles ont dessiné des fresques colorées pour embellir le quotidien.
Moi, je suis très bien ici. Tout va très bien, on discute. Par contre, il faudrait faire quelque chose dans la salle de bain, construire une vraie douche.
En Russie, les maisons de retraite privées sont très chères. Pour intégrer un établissement public, le retraité reverse les 3/4 de sa pension à l'État. Dans les maisons isolées, les conditions d'accueil sont bien souvent réduites au minimum. À Beguitchevski, les visites se font rares et il n'est pas toujours facile d'établir le contact. Sur la table de chevet d'une petite dame en fichu fleuri, la photo d'un vieil homme moustachu.
C'est mon mari, il est mort. Nous vivions ici, nous avions un appartement de l'autre côté de la rue. Nous l'avions aménagé, mais mon mari et moi avions tous les deux des problèmes de jambes. Nous ne pouvions pas marcher. C'est notre fille qui nous a fait venir ici. Elle s'est bien occupée de nous.
Allez, ne vous tourmentez pas. Demain, il y aura un concert. On chantera des chansons, on jouera de l'accordéon. Polina sera là. Elle était venue la dernière fois, vous vous souvenez ?
Polina, on la croirait tout juste majeure. À la pause déjeuner, dans la cuisine, la jeune bénévole aux tâches de rousseur raconte qu'elle écrit régulièrement à certains pensionnaires.
En fait, je leur parle un peu de tout, du temps qu'il fait, de mon chat, de mon travail, de mes parents. Tout les intéresse. Ils ne répondent pas. Par contre, ils me téléphonent pour me parler d'eux. Et pas seulement au téléphone. Ici, ils me racontent leur vie d'avant. Les femmes se rappellent leur mariage, leur vie avec leur mari, leur chat, ce qu'elles cultivaient dans leur jardin.
Sur le perron, Valentina Anatolievna s'accorde une petite pause. Par respect pour le directeur, l'infirmière supérieure insiste sur ce qui va bien, sur les travaux qui ont été faits, la restauration du toit, le nouveau système de chauffage. Elle préfère ne pas parler de son salaire. Elle est intarissable sur les bénévoles qui insufflent de la vie dans l'établissement, car au quotidien, les responsabilités sont lourdes.
Les conditions de travail des infirmières sont très difficiles parce que certains pensionnaires sont en très mauvaise santé. Ils ne peuvent pas se passer de couches, vous comprenez ? Il y en a une dizaine que nous devons nourrir nous-mêmes, du coup, mais ce qui me motive chaque jour, c'est ça, lever le malade, le nourrir, le laver, lui changer ses vêtements, lui sourire et lui dire bonjour. C'est aussi lui apporter une tasse de thé et lui dire bon appétit.
La prise en charge des personnes âgées risque de s'aggraver en raison du vieillissement de la population. Et si la part des dépenses sociales a augmenté ces dernières années, l'État justifie la fermeture d'établissements par l'augmentation du déficit budgétaire. Le ministre des Finances, Anton Silouanov, propose de revoir à la baisse les dépenses sociales dans le calcul du budget 2016-2018.
Tack för att du står och synar mig. Tack för att du visar mig världen. Och tack för att du hjälper mig.
Voilà une télévision qui ne ronronne pas vraiment en heure d'été. C'est par la publicité que vient le scandale sur la télévision nationale danoise. Aux heures de grande écoute, la deuxième chaîne diffuse une publicité anti-avortement et ce n'est pas du goût de tout le monde. Sung Shim Courrier.
30 secondes de moments tendres entre un père et son fils et pendant que les images défilent, la voix fluette d'un petit garçon qui s'adresse à son papa. Il le remercie pour tout ce qu'il a fait pour lui, pour l'avoir guidé dans la vie, pour lui avoir montré le monde. Il termine en disant « Merci de m'avoir choisi dans ce moment crucial et de m'avoir donné le droit de vivre ». Cette publicité lancée à l'occasion de la fête des pères par l'organisation Le Droit à la Vie met l'accent sur le rôle des hommes dans la question de l'avortement. Ne pas pousser une femme à avorter, c'est le message que l'organisation veut faire passer. La chaîne de télévision a reçu plusieurs plaintes de téléspectateurs offensés par cette campagne. Ce qui choque ces Danois, c'est que la publicité est diffusée sur TVTO, une chaîne nationale, coincée entre des pubs pour les saucisses, les voitures et les lessives. Anne Sunderby, la conseillère juridique de TVTO, estime qu'une organisation comme Le Droit à la Vie jouit de la même liberté d'expression commerciale que n'importe quelle entreprise. Selon elle, il n'est pas question d'être moralement d'accord ou non avec un spot publicitaire, mais seulement de s'assurer que son contenu ne contienne aucun message violent ou pornographique. Fort d'une expérience similaire en 2013, les cinémas du pays ont quant à eux décidé de ne pas diffuser ce spot, estimant qu'il pourrait déranger leur public féminin venu se détendre dans leur salle. Une décision qui a été interprétée par Le Droit à la Vie comme un acte de censure. Selon qu'au Danemark, le droit à l'avortement est en place depuis 1973. L'IVG est gratuite et peut être pratiquée jusqu'à la fin de la 12e semaine de grossesse.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site RFI.fr, Facebook et sur Twitter. À demain.